l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et c'est avec un petit bug informatique que nous allons débuter cette émission. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Juste le temps à ce que l'ordinateur et l'informatique reviennent à de bonnes conditions. Le sommaire de ce magazine, d'ici quelques instants, nous partirons découvrir une société sur Pau qui vous propose, pour les personnes qui sont âgées, de pouvoir rester le maximum chez eux. Alors cette société, on a toujours peur des fois d'avoir des artisans ou des personnes qui viennent et qui donne des conseils et se faire quelque part avoir. Eh bien, cette société vient chez vous, elle établit les travaux qu'il faudrait faire pour que vous puissiez rester le plus longtemps chez vous. Et ensuite, eh bien, elle vous met en relation avec des artisans et vérifie d'ailleurs les devis. Ça s'appelle Dom et Vie et on découvrira cette structure dans quelques instants. Et puis, nous aurons également, nous partirons pour le Gers où il y a eu une manifestation qui s'est déroulée lundi soir devant le tribunal, puisque comme partout en France, lundi a eu lieu un rassemblement devant un tribunal d'Auch pour réclamer l'adoption rapide de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Cette mobilisation initiée dans le sillage de l'affaire Liana est organisée par les coalitions féministes et des associations comme la Fondation des Femmes qui vise à maintenir la pression sur les parlementaires au moment où le texte transpartisan porté par la députée Céline Thiébaut-Martinez entre en examen en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Et puis un jour, un livre en auteur, Diego Rabal, sera avec un grand avocat parisien qui a écrit un livre, ou plutôt des nouvelles. Il nous parlera aussi à travers ses nouvelles de son métier d'avocat. Voilà, tout cela c'est à suivre sur Radio Présence.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Près de 20% de la population âgée de 60 ans et plus vivent dans les Pyrénées-Atlantiques et font partie des territoires où le vieillissement s'accélère le plus. On va découvrir aujourd'hui, avec cette interview, une société qui s'appelle Dom et Vie. Et j'ai le grand plaisir d'avoir Yann et Xavier d'Artigenave. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes tous les deux frères, c'est ça, si j'ai bien compris?
C'est ça, tout à fait.
Alors, on va partir à la découverte un peu de cette structure. Vous proposez quelque chose d'innovant. C'est que vous voulez accompagner les gens qui vieillissent et qui ont besoin d'une adaptation de leur domicile pour rester le plus longtemps à domicile. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça, tout à fait. On accompagne du coup les personnes qui vieillissent, mais aussi les personnes à mobilité réduite.
Ah oui.
Voilà, notre but, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui sont dans le besoin pour adapter leur logement.
Alors, on va un peu décrypter comment ça se passe. Si moi, demain, par exemple, mes parents ont besoin d'adapter leur maison, je viens vers vous et qu'est-ce que vous allez concrètement me proposer? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi?
Alors, nous, on va venir chez vous et on va réaliser un diagnostic du logement. Donc, on va étudier toutes les pièces qui ont besoin d'être adaptées. Et on va proposer des aménagements sur mesure, allant de la douche sécurisée au monte-escalier, des barres d'appui, mais aussi tout ce qui est domotique. On fait également des salles de bain PMR et des élévateurs. Voilà ce qu'on va faire dans un premier temps sur la partie diagnostic, mais on fait aussi un accompagnement sur tout ce qui est financement, pour vraiment être référent de A à Z et pouvoir vous accompagner tout au long de l'adaptation du domicile.
Alors, vous allez accompagner donc ces personnes effectivement à faire ce diagnostic. Vous allez aussi leur conseiller, je pense, quelque part, de trouver donc aussi les aides qu'ils ont besoin et les artisans pour réaliser ces travaux. C'est pas vous qui le faites.
Alors, nous, on travaille avec des artisans locaux, effectivement. Donc, on gère tout ce qui est contact avec ces artisans, on est les référents, et c'est aussi la même chose sur la partie financement. On va chercher les aides ensemble, voir en fonction des situations des différentes personnes, ce au quoi elles ont droit, et les accompagner dans la rédaction de ces aides, dans toutes les démarches.
Donc toutes les démarches, c'est-à-dire vous allez chercher quoi, des aides au département, à l'État,
ouais,
à la commune,
exactement.
C'est ça?
Exactement, c'est ça. On fait le tour de tout le monde pour pouvoir vraiment aller aider au mieux le financement de ces projets pour les personnes.
Alors une fois que donc vous avez fait ce diagnostic, que vous avez vu à les personnes, vous avez vu les aides qu'elles ont, vous allez pouvoir passer à la phase suivante, c'est-à-dire que les artisans vont venir, ils vont chiffrer tout ça, vous allez voir si effectivement aussi les artisans ou les personnes n'exagèrent pas dans les prix, hein.
Alors en fait nous on coordonne tout.
D'accord.
Donc on réalise ce chiffrage aussi, c'est nous qui réalisons l'ensemble de ce chiffrage. Sur les différents chantiers.
D'accord. Alors, du coup, alors, pour bien comprendre, la personne, elle vous règle à vous et vous réglez les artisans ou chaque artisan est réglé par la personne?
Oui, alors, si vous voulez, nous, on s'occupe de réunir les devis de tous les artisans avec qui on travaille et c'est nous qui présentons ces devis-là au client. C'est nous qui facturons. Le client, lui, il a un seul intermédiaire.
Ah, c'est
plus possible de coordonner tous les travaux et de venir vérifier que tout se passe bien.
D'accord. Vous êtes un guichet unique, absolument, quelque part.
Alors, on n'est pas guichet unique, hein. Nous, le guichet unique de chez France Rénov', notamment, ils ont leur propre partie. Mais nous, en fait, on s'occupe de mettre en lien tous les différents corps d'État et tous les différents les intervenants, quoi. Voilà.
Du coup, vous mettez aussi en relation peut-être avec la famille, si y a la famille. Donc, vous vous rendez bien sur place, vous faites bien les expertises, et puis vous faites peut-être des plans, des devis. Puis après, une fois que c'est accepté, on peut passer à la phase, donc regarder sur les aides qu'ils ont droit et le reste à payer, c'est ça, le reste à charge.
Voilà, en fait, si vous voulez, donc nous, il arrive souvent qu'on ait affaire aux enfants ou aux petits-enfants, hein. Parce que c'est vrai que des fois les personnes âgées ont un peu du mal avec notamment ce qui concerne l'informatique et on sait qu'aujourd'hui que 100% des démarches elles se font informatiquement, donc il nous arrive très très souvent d'être en contact avec les différents membres de la famille. Une fois que les devis sont établis, les devis sont, si jamais ces gens peuvent bénéficier notamment du dispositif MaPrimeAdapt, les devis sont envoyés à travers différentes plateformes et sont contrôlés même par l'État, ce qui nous permet nous aussi de mettre en œuvre les travaux avec différentes préconisations, notamment des préconisations d'ergothérapeutes. Et ces préconisations-là, elles sont contrôlées par des organismes de l'État, que ce soit au niveau de la faisabilité et y compris au niveau des devis, du prix des devis des travaux qui sont vendus.
Oui, d'accord, oui. Il y a vraiment...
Ce qui amène une sécurité au niveau des clients, parce que c'est quand même bordé et contrôlé.
C'est vrai qu'on a des fois un petit peu peur, hein, quand on a vu les écarts qu'on a pu avoir, par exemple, sur l'isolation avec les primes de l'État, mais souvent il y avait des arnaques derrière. Là, c'est vrai que vous bordez tout ça, hein.
Alors nous, clairement, après, donc, on va avoir deux modes d'intervention. Soit on va intervenir avant des ergothérapeutes, donc on intervient, on fait nos propres préconisations et ces préconisations sont contrôlées par les services de l'État qui eux-mêmes ont des ergothérapeutes. Ou sinon, on passe après des ergothérapeutes, donc le devis que l'on va mettre en place va correspondre aux préconisations des ergothérapeutes, que ce soit sur des mises en place de WC surélevés, sur des barres de maintien, sur des élargissements de portes aussi pour que les personnes puissent passer avec leur fauteuil roulant. Tout ça, nous, on intervient après préconisation d'un ergothérapeute et notre devis est recontrôlé. Donc c'est vrai que c'est ultra rassurant pour le client.
Ouais, ultra rassurant. Alors on peut vous trouver un peu partout, hein, dans tous les départements. Là on est bien sûr, votre agence se trouve en Gaïs, on l'a dit tout à l'heure, dans les Pyrénées-Atlantiques, et il y a des agences Domévi dans chaque, pratiquement dans chaque département. Vous me disiez que dans les Hautes-Pyrénées il y en avait un, dans le Gers aussi.
Voilà, aujourd'hui Domévi c'est près de 70 agences. Donc nous sommes aujourd'hui sur Angaïs. J'en profite justement que vous parliez de la du placement de notre agence. On va ouvrir un showroom à Sercassette le mois prochain pour que les gens justement puissent venir se rendre compte des différentes installations que l'on peut proposer, que ce soit des douches, des montes-escaliers. Donc en plus nous de notre agence à Sercassette, effectivement vous avez une agence à Tarbes avec Sonia et Stéphane. On parlait du Gers aussi, c'est Yannick qui est dans le Gers. Et aujourd'hui il y a, voilà, on couvre vraiment tout le territoire. Je sais même qu'il y a une agence qui va s'ouvrir le mois prochain sur Bayonne.
Sur Bayonne, sur le Pays Basque, d'accord.
Voilà. Alors aujourd'hui, nous, on est tous des indépendants, mais on s'appuie du réseau Domévi qui nous permet justement d'avoir accès à toutes ces informations, à tous ces produits qui nous permettent de réaliser et de répondre à toutes ces demandes.
Quelles sont peut-être les demandes qui reviennent le plus? Qu'est-ce qui revient dans l'adaptation d'un logement? C'est quoi? C'est souvent la douche? C'est les sanitaires? C'est quoi?
Oui, clairement aujourd'hui, la pièce où il y a le plus d'accidents, eh bien, c'est la salle de bain. Oui. Il y a quand même plus de 2 millions de personnes de plus de 65 ans qui chutent chaque année. Les principales chutes, elles se passent dans la salle de bain, lorsqu'ils doivent enjamber leur baignoire notamment ou sortir de leur baignoire. Les baignoires, c'est des éléments sanitaires qui glissent énormément. Donc nous, notre 70% de notre métier, c'est de la transformation de salle de bain. On enlève les baignoires pour mettre des receveurs antidérapants, des sièges de douche, des barres d'appui.
D'accord. Ouais, et vous accompagnez ça. Alors c'est vrai que des fois on a peur de rentrer dans des travaux sur des maisons peut-être qui sont âgées, des maisons vieilles. Mais vous rassurez, c'est quand même un plus pour une personne si elle peut rester à domicile. Hein.
Alors c'est un plus pour la personne parce que elle va pouvoir se doucher en toute sécurité, mais c'est aussi un plus lorsqu'il y a des aidants. Nous, lorsqu'on réalise nos études, on prend en compte et les difficultés de la personne, mais aussi les difficultés des aidants qui vont venir aider ces personnes âgées ou ces personnes à mobilité réduite à se doucher.
D'accord. Ah oui, effectivement.
Vraiment en compte tout l'environnement. Hein.
Voilà, donc si on veut avoir des conseils, si on veut rentrer en contact avec vous, parce que, ben voilà, vous l'avez dit, hein, la population, elle vieillit et il faut l'accompagner dans ce vieillissement, eh bien, on peut venir vous voir. Vous êtes donc aux 4 rues de la Plaine, à Angaïs, hein, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez donné, il suffit de taper DOM et VIE, DOM et 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 VIE, bien sûr, et on recherche sur le moteur de recherche et on arrive à trouver les adresses des départements pour les gens qui nous écoutent dans notre région. Hein.
Oui, tout à fait. Alors nous recevrons avec plaisir. Nous nous déplaçons aussi à domicile, hein. C'est même 99% du temps, c'est plutôt nous qui venons à domicile pour voir ce qu'il y a à faire exactement. Et à partir du 2 mars, eh bien oui, nous serons donc par contre aux 4 impasses du Muguet à Sercassette. Voilà.
4 places.
Et là, les gens pourront venir nous voir dans nos bureaux. On ouvre des nouveaux bureaux à Sercassette.
Très bien. Et si on veut rentrer en contact par téléphone pour avoir plus de renseignements, comment on peut faire?
Alors, donc les gens peuvent nous appeler. Donc nous sommes deux, Yann et Xavier. Donc Yann, mon numéro c'est le 06 23 94 50 97.
Et Yann, c'est le 06 05 20 93 97.
Voilà, je vais répéter ces numéros. 06 23 94 50 97 et 06 05 20 93 97. On aura un des deux frangins, c'est ça, hein?
Exactement.
Un grand merci à tous les deux. Bien sûr, on pourrait parler plus longuement, hein, mais on a compris vraiment votre dispositif qui est unique et qui est plutôt bien, hein, et qui est plutôt rassurant à la fois pour les personnes âgées, mais également pour la famille. Vous avez dit les enfants, les petits-enfants, les aidants. Si on veut avoir une vraie expertise, un coût des travaux qui est contrôlé, et si on veut savoir aussi à quelles sont les aides qu'on a droit, eh bien, on vient vous voir, on vous appelle, vous venez à domicile, hein, si je résume, vous faites une expertise et puis vous dites ce qui a lieu de faire, hein, c'est ça, hein?
Oui, voilà, tout à fait. Alors nous, il faut aussi savoir que cette visite, elle est totalement gratuite, ça n'engendre aucun coût, et on s'occupe effectivement de vous donner des infos sur toutes les aides qui sont disponibles. D'accord. En fonction de l'endroit où vous situez, et on vous fera un devis. On a aussi un logiciel qui nous permet de faire des plans 3D, donc ça nous permet d'avoir un rendu aussi photographique à la sortie du rendez-vous. On sait à quoi va ressembler notre salle de bain dès lors que les travaux seront effectués.
D'accord, eh bien, écoutez, ben voilà, si vous voulez pas, parce que c'est compliqué de trouver des artisans, de s'occuper de tout ça, de la paperasse, et puis du suivi des travaux, eh bien voilà, on vient vous voir, Dom et Vie, Yann et Xavier d'Artigenave, donc on vient voir à votre rencontre. Je rappelle vos numéros, 06 23 94 20 97, ou bien le 50-97. Et 06-05-20-93-97. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage à vous. Et puis, eh bien, j'espère que le téléphone va sonner et que vous allez pouvoir aider des personnes, donc, à pouvoir rester au moins au maximum le maintien à domicile chez eux, là où ils sont peut-être le mieux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos, vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. De 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café.
À Lannemezan, 92.2.
Lundi soir, comme partout en France, a eu lieu un rassemblement devant le tribunal d'Auch pour réclamer l'adoption rapide de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Cette mobilisation, initiée dans le sillage de l'affaire Liana, est organisée par les coalitions féministes et des associations comme la Fondation des femmes, vise à maintenir la pression sur les parlementaires au moment où le texte transpartisan porté par la députée Céline Thiébaut-Martinez entre en examen en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter Laurence et Magali du collectif Solidaire et Fabrice Lamarque, secrétaire général de la CGT Gers. Ils sont tous au micro de Pauline Cazier.
Ben pour l'instant, rien, puisque la loi va être discutée au mois d'octobre. Voilà. Et on sent que pour l'instant, le gouvernement est quand même sur le recul. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'il désigne toujours des personnes, mais pas un système. Et ça n'a pas changé. Et que nous, on dénonce un système, on dénonce un manque de moyens, et on dénonce une société patriarcale qui, tout à l'heure, Fabrice parlait de solidarité de classe. Et on sent qu'on y est, et l'affaire Weinstein le montre, hein, parce qu'effectivement, c'est des puissants qui se sont solidarisés pour faire ce qu'ils ont eu à faire, pour faire du fric sur des jeunes filles quand même. Hein, voilà. Il y a une vraie attente parce que, ben, oui, bien sûr, parce qu'on sait que les mentalités, elles peuvent changer avec des lois, avec des discussions, et que c'est ça qu'on attend, oui. On attend plus de prévention et peut-être moins de discours un peu couperés, de dire c'est la faute de l'un ou l'autre, et de montrer que les prédateurs, ils sont, y a quelque chose qui ruisselle. Là, pour le coup, ça ruisselle. Ce qui ruisselle bien, effectivement, c'est l'impunité des puissants qui ruisselle sur l'ensemble de la société. Voilà.
Les points de cette loi intégrale, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Est-ce qu'il y aura un changement du code civil, pénal?
Il y a quelques avancées, notamment en termes de prise en compte de la parole des victimes, pour éviter toute les victimisations secondaires, on va dire, parce qu'elles ont été maltraitées par le système judiciaire. Donc il y a quelques éléments de prévention aussi dans l'éducation. Donc c'est pour ça qu'on parle quand même d'avancées. Mais très clairement, pour le moment, c'est en deçà de ce que nous, on souhaite. Et on se dit quand même, c'est l'occasion ou jamais de faire une grande loi ambitieuse pour ne laisser aucune victime sur le bord de la route. Et ce que l'on craint, c'est qu'avec ce projet de loi qui ampute déjà un petit peu les propositions de la coalition féministe et enfantiste, bien c'est qu'il y ait des victimes qui ne soient pas réellement protégées. C'est pour ça qu'on pousse. C'est vrai, c'est encore un peu difficile d'en parler, puisque aujourd'hui encore, il y a eu une commission, donc il y a certainement des avancées. Donc peut-être que ce que je vais vous répondre est faux là aujourd'hui. Mais donc dans les mesures supplémentaires que nous on souhaiterait, ben là je parle pour la CGT, donc pour le monde du travail, c'est que dans le travail, il y a un peu plus de pouvoir pour les inspections du travail, un peu plus de pouvoir pour les médecines du travail, un peu plus de pouvoir pour les représentants des personnels. Vous savez que par exemple les CHSCT avaient été supprimés et qu'ils pouvaient avoir là un lieu pour que les victimes soient entendues éventuellement. Voilà, il y a tout un tas comme ça d'aspects travail qui sont plutôt oubliés.
Justement, un aspect de travail qui est plutôt oublié, un parquet d'Auch qui, depuis l'affaire Liana, s'est appauvri avec le départ d'une procureure qui n'a pas encore été remplacée. Il y a aussi une substitut du procureur qui est en arrêt maladie. Justement, est-ce qu'on ne s'est pas servi de fusible?
Ils ont utilisé le tribunal, ils se sont dit c'est la faute du tribunal, mais en fait il faut que l'État aussi porte la responsabilité de ce qu'il est en train de faire. C'est l'État aussi qui est responsable, c'est pas que les gens qui travaillent au tribunal qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et le personnel qu'ils ont, qui manque à mon avis beaucoup. Et on demande aussi de la prévention au niveau de l'éducation, au niveau des forces de l'ordre qui ne sont pas forcément formées pour recevoir les plaintes. On l'a vu, il y a quand même eu des dysfonctionnements au niveau de la prise de plaintes sur certains commissariats. Et voilà, on entend plus de prévention et il faut que l'État amène une réponse en fait qui soit à la hauteur de ce qu'on demande en fait. C'est pas juste taper sur quelqu'un au tribunal, c'est pas suffisant ça. C'est pas recevable.
Il y a un événement qui vous a fait réagir aussi, c'est la venue vendredi d'un influenceur, acteur pornographique également. Et qui est visé par des plaintes.
Oui, par une plainte pour viol, oui. Oui. Alors ça, moi je l'ai appris hier, hein, donc je peux pas en parler plus. Mais effectivement, on est dans ce système où effectivement des présumés violeurs, enfin en tout cas des gens contre qui on porte plainte pour viol, eh ben eux, ils ont pignon sur rue, ils peuvent faire des concerts, bon, on le voit. Hein. Et alors que les victimes, elles sont en souffrance, et il faut en plus qu'elles se taisent parce qu'elles sont accusées de, de vouloir gagner des sous, de vouloir acquérir de la célébrité. Et c'est ça qu'il faut renverser, en fait. C'est que quand on dit que la peur change de camp, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse. Voilà. C'est les présumés coupables qui doivent faire profil bas face à la souffrance de femmes qui portent plainte. De femmes ou d'enfants, d'ailleurs. Ou de petits faits d'enfants, des garçons. Oui. Et c'est quand on voit par exemple Morandini qui est resté je ne sais pas combien de mois après sa condamnation, qui est resté à la télé. Là, il a été mis de côté quelques temps et là, et du coup, il revient encore une fois. Là, je sais pas, c'est des choses qui sont scandaleuses. Et ça participe d'un système d'impunité. Voilà, vraiment. Voilà.
C'est ça. Sur les manifestations dans les semaines à venir, tous les lundis, vous appelez à manifester devant le tribunal. C'est en fait un mouvement national aussi.
Oui, qu'on relaye, oui. Oui, c'est un mouvement qu'on relaye, tout à fait.
Et justement, cette loi intégrale, elle sera étudiée jusqu'au mois de février.
Oui, c'est ça, oui, jusqu'au mois de février. Donc, on se réunira tant qu'on n'obtiendra pas satisfaction.
Voilà. Voilà, vous avez pu entendre Laurence et Magali du collectif Solidaire et Fabrice Lamarque, secrétaire général de la CGT Gers. Ils étaient au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Dans quelques minutes, on retrouvera le duo célèbre Diego Arrabal et Philippe Leny pour un jour, un livre, un auteur, mais pour l'instant, petit point sur l'actualité. On retrouve pour cela Éric Leclerc pour l'actu régionale à la mi-journée. Bonjour Éric.
Bonjour, grève illimitée à l'école Ada Lovelace à Toulouse depuis lundi pour 5 accompagnantes des élèves en situation de handicap. Elle dénonce le manque d'accompagnants dans cet établissement qui compte 5 personnes pour 11 enfants, ce qui ne permet pas de répondre correctement aux besoins de chaque enfant et de garantir des conditions d'accompagnement adaptées. Ce jeudi, l'équipe enseignante se joint au mouvement de grève. L'école n'accueillera aucun élève. Ce sont 105 hectares de végétation qui ont été détruits par les flammes depuis vendredi dernier sur la commune de Bareil dans les Hautes-Pyrénées. Les opérations de lutte contre le feu sont difficiles et s'effectuent dans des conditions météorologiques défavorables. Les secours des Hautes-Pyrénées sont renforcés par un détachement d'intervention héliporté lourd composé de plusieurs personnels des départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Gard et du Var. Le département a également été renforcé par des sapeurs-pompiers de l'Ariège et de la Haute-Garonne depuis hier. 3 hélicoptères ont été engagés sur place. Dans un contexte bien chargé pour les sapeurs-pompiers, ces derniers ont entamé hier un mouvement de grève nationale. Ils demandent des moyens humains et la revalorisation des conditions de travail, la santé et la sécurité de tous les agents sur le terrain et le financement pérenne des services d'incendie et de secours. Aujourd'hui, on compte plus de 256 000 sapeurs-pompiers en France, dont 53 453 sont des femmes. 78% des sapeurs-pompiers sont volontaires, 17% sont professionnels et 5% sont sapeurs-pompiers. Pompiers militaires. Le tribunal de commerce de Toulouse s'est réuni hier matin à l'occasion d'une nouvelle audience portant sur le projet de reprise de Fibre Excellence Saint-Gaudens. Les industriels aux côtés de la région Occitanie demandaient un délai de 3 mois supplémentaires de poursuite d'activité pour finaliser leur projet de reprise. Cette demande rendue possible par les financements mobilisés par la région et l'État pour assurer la continuité de l'activité jusqu'en décembre a reçu le soutien de l'ensemble des parties. Le tribunal a mis en délibéré cette prolongation de 3 mois et rendra sa décision le 15 septembre prochain. Septembre en or au CHU de Toulouse. C'est une mobilisation de terrain collective et solidaire. Plusieurs rendez-vous vous permettront de mettre en lumière le travail des équipes d'oncopédiatrie et de sensibiliser le grand public au cancer pédiatrique. Demain, une course solidaire organisée par des équipes soignantes avec départ simultané à 18h de l'hôpital des enfants et de l'Oncopole pour une arrivée à l'hôtel Dieu Saint-Jacques. Et le 22 septembre, présent sur le forum des associations du CHU sur les sites de Rangueil, de Pierre-Paul Riquet et de l'Hôpital des Enfants. Une occasion de mieux faire connaître le rôle essentiel des associations auprès des enfants atteints de cancer et de leur famille, mais aussi des équipes hospitalières. L'association Musica Tempo vous présente un concert exceptionnel pour faire dialoguer la musique, le patrimoine et l'émotion, à découvrir ou redécouvrir des œuvres remarquables interprétées par des musiciens et chanteuses de grande qualité au travers de lieux emblématiques. Au programme, le Stabat Mater de Pergolèse par l'ensemble instrumental d'Aveyron et les solistes Marie-Laure Levallois, soprano, et Lise Arbiol, mezzo-soprano. Le concert a lieu samedi 12 septembre à 17h à la Chapelle Royale à Rodez.
Et un grand merci à Éric Leclerc pour nous présenter l'actualité. Le retour de l'actu sur Présence, ce sera 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Nous allons partir très très loin puisque nous partons pour la capitale, Paris, car l'invité au téléphone de Un jour, un livre, un auteur est un avocat, un très grand avocat parisien. Il a écrit un livre, un recueil de nouvelles plus précisément, mais je laisse bien sûr à Diego Arabal et Philippe Noni le soin de nous présenter son invité et ce recueil.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission qu'on retrouve avec grand plaisir toutes les semaines. Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, bonjour.
Bonjour Diego Arabal, bonjour Philippe Subercase.
Bonjour les deux Philippe, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Alors, ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est que nous voyageons et là, je pense que nous partons pour la capitale, Philippe Noni.
Exactement, nous partons pour la capitale pour le début de cette 14e saison de Un jour, un livre, un auteur. Nous allons parler d'un recueil de deux nouvelles que j'ai trouvé particulièrement bien écrit, tant il est servi par une écriture étincelante. Son auteur est avocat. Il a été bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010, puis il a été président du Conseil national des barreaux de 2012 à 2014. Et l'ouvrage qu'il a écrit emprunte beaucoup à l'univers professionnel qui est le sien. La jeune captive de Christian Charrière-Bournazel, publié aux éditions Marie-Romaine. Bonjour Christian Charrière-Bournazel.
Bonjour monsieur.
Comme je l'ai précisé dans mon propos liminaire, vous êtes avocat et tenez-vous bien, je me suis toujours posé la question de savoir comment pourrait évoluer la relation professionnelle entre un avocat et sa cliente dès lors qu'une relation intime se tisserait entre eux, et c'est justement le thème de la première nouvelle de votre recueil de nouvelles « La jeune captive ». J'ai trouvé cette histoire passionnante et je vais lire, avant qu'on commence l'interview, la quatrième de couverture de « La jeune captive » publiée aux éditions Marie-Romaine. Si la passion amoureuse est à 18 ans le prix à payer pour l'apprentissage de la joie et du plaisir, elle est 20 ans plus tard un départ pour des galaxies inconnues à travers l'infini de l'espace et du temps. Et tandis que le jeune fauve au cœur tendre n'a rien à craindre de ses larmes à l'heure où elle féconde sa vie future, l'autre quitte pour toujours et sans bagage le monde fini de sa maturité. Un avocat de renom, respectable et envié, tombe passionnément amoureux de sa jeune cliente, incarcérée brièvement pour une faute vénielle. C'est alors que commence la descente aux enfers de cet homme foudroyé. Plus qu'un nouvel avatar du démon de midi, il s'agit ici d'un portrait tout ensemble pudique et sans complaisance, servi par une langue étincelante, ce que je confirme par rapport à la quatrième de couverture écrite par votre auteur. Alors, une question pour commencer, Christian Charrière-Bournazel. Est-ce que toute ressemblance avec un avocat ayant réellement existé ne serait que pure coïncidence ?
Non, non, il n'y a pas de coïncidence, cher monsieur. C'est une histoire que j'ai en effet vécue en 1986. Ça fait déjà 40 ans.
D'accord.
Et j'ai connu cette jeune personne sur la recommandation de quelqu'un qui lui avait proposé de me prendre comme conseil à l'époque où il était détenu. Et je n'avais pas soupçonné un instant que je puisse concevoir pour elle, une passion qui n'est pas allée au-delà de ce que j'ai ressenti et à quoi elle n'a répondu que par la négative. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puisque je n'ai pas mélangé ce qui était de l'ordre de la défense que je lui devais, comme professionnel, et ce qui était de l'ordre de ma vie intime, personnelle, avec très certainement quelque chose qui me renvoie à Racine, Jean Racine, lorsque Brutus dit à Néron, on n'aime pas Seigneur si l'on ne veut t'aimer. Et cette histoire fait que ma vie a été totalement transformée à partir du moment où elle m'a dit non, et je ne lui ai posé la question qu'après que j'avais terminé ma mission auprès d'elle comme professionnel. Ma vie a été totalement bouleversée, le monde est devenu gris, noir, je ne voyais partout que des vieillards, et j'étais moi-même dans une sorte d'autre monde, en effet, une autre galaxie, celle de la souffrance, de la déception, de la grisaille définitive d'un cœur brisé.
Alors vous auriez pu en faire, c'est là où je trouve que votre œuvre est vraiment remarquable, parce que vous auriez pu en faire une biographie qui aurait été, somme toute, ben je dirais, peut-être pas ennuyeuse, mais en tous les cas, on se serait dit, bon, ok. Sauf que là, vous en faites une histoire étincelante, donc en parlant d'un avocat qu'on n'identifie pas comme étant vous. Je me suis posé la question tout au long du roman. Je vais lire pour qu'on ait une idée un peu, pour donner aux auditrices et aux auditeurs une idée de votre écriture. Je vais lire le début de La jeune captive, donc c'est en page 11 de votre roman. L'année de mes 40 ans me fut symboliquement pénible. La certitude qu'il me restait à courir, que le plus court du chemin me rendit plus désespérante la stérilité de mon passé. À l'évidence de mon déclin s'ajoutait le renoncement forcé à ce que je n'avais plus ni le temps ni les moyens de devenir. J'avais été rêvé théâtre, littérature, je mourrais avocat. Je disais adieu à mon adolescence à l'heure même où se dessinaient les rivages de ma mort. Entre ce départ et cette fin, il n'y avait pas eu de place pour une vie d'homme. De quoi cependant me serais-je plaint ? Une situation convenable dans le monde, les beaux dossiers ne m'avaient pas manqué, comme l'avait écrit un journaliste, ni des honoraires confortables, ni même quelques engagements publics risqués. Je jouissais de la considération de mes amis, de mes clients, de mes confrères. Respectable et envié, je l'étais aussi pour ma famille. Trois fils réussis, une femme charmante. Avec cette naïveté qui ne juge que l'apparence, le monde me voyait doté de tout ce qu'il faut pour être heureux. Et du reste, je ne refusais ni le plaisir d'un manuscrit ou d'un dessin, ni celui d'un voyage lointain, ni la restauration à grands frais d'une maison de famille. Point de liaison tapageuse. Tout concourait à l'harmonie d'une vie bien conduite, jusque dans ses désordres nécessaires et discrètement maîtrisés. Je souffrais cependant. De quoi ? L'avenir m'était ouvert, je le sentais fermé. Mon élection au Conseil national de l'ordre laissait présager une candidature au bâtonnat. On murmurait aussi que les ministres de la gauche, dont plusieurs étaient mes amis ou mes clients, me réserveraient le moment venu une carrière politique. On ne m'imaginait embarrassé que par l'abondance des choix. Or, je n'avais point l'ambition aussi active qu'étaient nombreuses les opportunités. On voit ici la qualité de votre écriture qui, tout le long, illumine les deux nouvelles que vous avez écrites. On parlera de la deuxième nouvelle tout à l'heure, donc une écriture qui a une très grande musicalité. Qu'est-ce que représente pour vous la qualité de l'écriture dans un texte, Christian Charrière-Bournazel ?
Elle est essentielle. D'abord parce que on séduit le lecteur avec des mots que l'on choisit, que l'on ordonne, et qui doivent frapper à la fois son esprit et éventuellement son cœur. Mais surtout, je le dis quelquefois, je suis un littéraire égaré dans le droit. Je suis devenu avocat parce que mon père pensait que je devais l'être, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père. Je suis d'une génération d'avocats de père en fils, qui ne sont pas des avocats parisiens d'ailleurs, je suis le premier à être venu à Paris, et j'avais très tôt, dès l'âge de 4 ans, revêtu une robe d'avocat et une toque qu'on avait faite sur mesure pour moi. Mais j'aime mon métier bien sûr, simplement j'ai fait des études de lettres avec passion, et j'ai surtout depuis l'enfance aimer les lettres, aimer les poèmes, les textes en prose. Et j'ai appris tout ce que j'ai pu apprendre par cœur et qui ont habité depuis des années ma vie intérieure. Et donc l'écriture est pour moi le meilleur moyen de faire transmettre aux autres non seulement la beauté, mais les vérités auxquelles on est attaché et que l'on a envie de partager.
Alors, je vais relire un extrait de votre roman, parce que de votre recueil de nouvelles, pardon, et notamment de cette première nouvelle, donc La Jeune Captive, hein, je rappelle, hein, donc un recueil de nouvelles publié aux éditions Marie Romaine. Je vais lire le chapitre 9, c'est en page 66, et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous arrivez à exprimer au travers des mots, avec le pouvoir des mots, ce qui est ressenti à ce moment-là et que l'on ressent avec une force terrible quand on lit cette nouvelle et qu'on va la terminer, où on se dit, en la terminant, moi c'est ce que je me suis dit, waouh. Je me suis dit, là franchement, il m'a emmené loin. Je lis donc ce passage en page 66. Ton silence m'avait soudainement dépossédé de toi, du monde aussi, puisque tu t'étais confondu avec lui, de moi qui ne vivais qu'en toi. Il m'a lentement détruit de l'intérieur comme un poison dévorant et insupportable qui ne ferait pas mourir. Il s'est durci semaine après semaine jusqu'à se calcifier plus dur et plus inaltérable que le granit ou le marbre. Il pèse désormais sur moi, à qui il ne reste plus aucune énergie pour souffrir, comme la dalle soigneusement scellée sur une tombe. Tu as choisi de devenir quintessence de l'absence et du silence. Tu n'as finalement pas plus de consistance que celle de ce sépulcre. En vain imaginerais-je aujourd'hui ta réalité charnelle. Tu es sans visage, sans regard, sans voix. Je ne te cherche presque plus. Par-delà le supplice et comme anesthésié, je contemple celui qui avec toi achève de mourir. Je nous regarde mourir. Quelque effort que je fasse, tu ne parviens plus à renaître dans ma mémoire. Je puis bien te nommer, te parler, te faire asseoir en face de moi inutile. Celui qui t'aime à hurler achève en moi de mourir. Je ne vais avoir aucune pitié de lui, je ne l'entendrai bientôt plus. Je ne suis ni résigné, ni consolé, ni amer. Simplement, je n'ai plus de force. Je parviens, exténué, à la fin de ces lignes. Il me fallait jusqu'à leur terme les griffonner douloureusement, comme l'on va à travers les larmes, au bout de son désespoir. On a vraiment là, je le disais, Christian Charrière-Bournazel, une nouvelle vraiment exceptionnelle. On lit énormément, hein, d'un jour à livrer un auteur, donc on a l'occasion, hein, de pouvoir comparer et mettre en perspective effectivement ce que l'on lit. Là, La Jeune Captive, donc aux éditions Marie Romaine, c'est vraiment un bijou, quoi. Hein, sur
la page. Vous me flattez, je suis tout à fait confus de vos compliments qui me touchent.
Voilà, et c'est. Mais je trouve que derrière, vous. Dans ce que vous avez exprimé tout à l'heure, vous avez réussi à faire passer à travers le temps, avec ce pouvoir des mots, effectivement, ce que vous avez ressenti, et c'est vraiment ce recueil de nouvelles, je le recommande vraiment, avant qu'on parle effectivement de la deuxième nouvelle de votre recueil de nouvelles. Et vous voyez, quand j'ai terminé la première nouvelle, je me suis dit, bon ok, j'ai attaqué la deuxième nouvelle, et je me suis dit... mince, peut-être qu'elle ne va pas être aussi bien et que je vais peut-être m'ennuyer. Et en fait, j'ai trouvé la deuxième nouvelle, Martyr de l'absurde, encore meilleure que la première. Alors la deuxième nouvelle, Martyr de l'absurde, hein, ça met en scène l'amour fou entre un homme et une femme qui ont la particularité d'être cousins germains dans un monde qui rejette cette relation. Même question que pour la précédente nouvelle, comment vous est venue cette idée d'écrire ce très beau texte qui est quand même un manifeste de tolérance, je trouve, pour l'amour. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce texte d'un amour entre un cousin et une cousine?
Parce que c'est une histoire de famille. L'homme est en fait l'un de mes deux grands-pères et la cousine dont il était amoureux, et qui était elle-même amoureuse de lui, je l'ai rencontrée à la fin de sa vie dans le Carmel d'Autun, où elle avait décidé, ou on l'avait décidé, de s'emmurer pour le reste de ses jours. Et cette histoire poignante, je l'ai entendue raconter très discrètement par mon grand-père, Et la religieuse elle-même, lorsque je lui ai rendu visite, elle était déjà très âgée, m'avait parlé de lui en me disant « Votre grand-père m'aimait beaucoup ». Et cette histoire poignante, je ne vais pas la paraphraser maintenant, m'a touché depuis que je l'ai connu. Simplement, j'ai romancé quelque chose qui n'a peut-être pas existé. C'est l'idée qu'ils auraient pu, à un moment donné, avoir une intimité qui aurait fait qu'elle tomba enceinte. Ce n'est pas certain. Mais en tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée pour expliquer comment, après qu'on les eut fiancés, on est décidé de les faire rompre. Et j'ai pensé que si on les avait fiancés, c'est parce que il n'était pas pensable qu'elle mit au monde un enfant sans avoir été marié. Mais ça, je l'ai peut-être inventé. Ce qui est surtout essentiel, c'est cette passion partagée que l'esprit du temps, la perversion religieuse, la religion n'est pas perverse, mais on peut en avoir une perception perverse, a rendu séparés définitivement alors qu'ils s'aimaient et qu'ils auraient pu être les plus heureux du monde.
C'est vraiment très émouvant ce que vous nous racontez, Christian Charrière-Bonderzel. On vous écoute avec beaucoup de ferveur. Je pense que, je ne sais pas si Diego Arrabal sera d'accord avec moi, avec beaucoup de ferveur dans le studio, parce que ces deux histoires qui remontent de très loin, qui en fait sont deux histoires vraies, c'est la question que je me suis posée en le lisant. Je me disais, mais Boris Vian disait cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée. Ben vous, c'est le contraire. Vous n'avez pas eu besoin d'inventer cette histoire. Elle était vraie, sauf que vous avez su mettre les plus beaux mots pour en parler. Je vais lire un extrait également de cette deuxième nouvelle qui m'a énormément touché, que j'ai trouvé vraiment touchante. Je l'ai relu une deuxième fois pour le plaisir des mots, par rapport à la beauté de l'histoire, par rapport à la tolérance qui s'en dégage, c'est-à-dire on dit à un moment donné, ok, un cousin et une cousine s'aiment, ok, il peut y avoir de la consanguinité, mais à un moment donné, il y a de l'amour entre les deux. Et c'est vrai que vous posez un certain nombre de choses à l'intérieur qui sont très émouvantes, et je vais lire un extrait, moi, vraiment, qui m'a énormément touché, c'est en page 123 de votre recueil de nouvelles. Donc, Martyr de l'absurde. Donc, c'est La Jeune Captive, hein, suivi de Martyr de l'absurde, publié, je le rappelle, pour les auditeurs et les auditeurs, aux éditions Marie Romaine. Je lis cet extrait. Anne-Marie fit une première lettre postée par la tourière pour informer Henri du stratagème. Ainsi, pendant 20 ans, ils s'écrivirent au moins une fois par mois en s'appelant mon oncle, ma nièce. Cet artifice les conduisit à échanger de rôles et de masques comme au temps de leur théâtre. Leurs échanges furent empreints d'une affection sage et retenue. Henri la tenait au courant des péripéties de sa vie quotidienne, de l'évolution de ses fils, puis de leur progéniture. Il évoquait parfois les temps heureux de leur enfance sans commettre d'anachronisme. Elle lui envoyait des poèmes pleins de paix, de lumière et d'espérance où l'objet de sa tendresse avait pour nom Jésus. L'année où elle fêta son jubilé après 50 ans de vie monastique, Henri tint à assister à la cérémonie dans la chapelle. Il entendit chanter les saintes femmes de l'autre côté de la grille voilée de noir. La sœur Tourière vient lui dire qu'il pouvait converser avec Anne-Marie au parloir. Il s'y rendit. Une autre grille voilée de noir les séparait. Elle parla à la première, le remerciant d'être venu et prenant de ses nouvelles. Elle lui proposa d'écarter le voile. « Pour mon jubilé, je suis autorisé à m'affranchir de la clôture. Nous pourrons ainsi nous voir à nouveau, » dit-elle. « Non, » lui répondit Henri. « Ta voix n'a pas changé, la mienne non plus. Je suis un vieux monsieur de près de 80 ans. Tu as vieilli, toi aussi. Mais nos voix sont restées les mêmes. Je te contemple sans te voir comme je t'ai toujours connu. » Ce fut leur dernière rencontre. Il retourna à la propriété familiale qu'il ne quitta plus. Il y vivait de ses souvenirs, elle peu à peu privée de ses jambes, poursuivit sa vie de moniale, pieusement apaisée. Vous avez dans ce passage que j'ai lu, donc donné à cette personnage, le personnage de la cousine de votre grand-père. Et J'ai eu le sentiment, en lisant cette nouvelle, que c'est un hommage que vous rendez à trois personnes. À votre grand-père, à sa cousine, et la troisième personne, c'est l'amour qu'ils ont ressenti l'un pour l'autre. Est-ce que je me trompe en ayant ressenti ça en lisant votre texte ?
Non, non, vous dites vrai. Et si j'ai tenu à tenter de l'écrire pour que ce souvenir ne se perde pas, c'est parce que mon grand-père m'en a parlé et c'est lui qui m'a raconté cette visite le jour où, fêtant son jubilé, elle avait proposé, autorisé à le faire, à abandonner la clôture pour se regarder. Et j'avais trouvé tout à fait émouvant l'idée que l'on puisse non pas se repaître du visage de l'autre qu'on a aimé, mais d'être transporté par le fait que la voix est la même, comme si l'âme, sans être atteinte par le temps, demeurait éternellement celle de l'enfant, l'adolescent, frappé par l'amour et pétri d'absolu. Et ce détachement du cœur et du corps méritait d'être rappelé.
Ah oui, vraiment, moi je recommande. Hein, c'est très émouvant de vous entendre parler, franchement, quand vous parlez de ce livre, parce que je retrouve l'émotion qu'il y a dans ce roman, ou avec le pouvoir des mots. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question de savoir quelle importance vous accordiez à l'écriture. En fait, vous avez mobilisé la langue pour pouvoir, à un moment donné, faire ressurgir une histoire du passé, très franchement, qu'il aurait été dommage de ne pas exhumer. Parce que lire ces deux histoires, je pense que je vais relire l'intégralité de votre recueil de nouvelles, certainement au cœur de l'hiver, quand je serai tranquillement assis au coin du feu, parce que la beauté des mots, la beauté de l'histoire, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on lit, la façon dont vous l'écrivez. Voilà, moi, ça m'a transporté. Franchement, je recommande votre recueil de nouvelles aux auditrices et aux auditeurs, Christian Charrière-Bournazel, parce que...
Je suis très touché de ce que vous me dites, et je suis un peu confus, car je ne suis pas sûr de le mériter, mais en tout cas, merci.
Voilà, c'est vraiment La Jeune Captive, donc suivie de Martyr de l'Absurde, donc aux éditions Marie-Romaine. Vraiment, je recommande ce recueil de nouvelles. Vous avez écrit d'autres ouvrages, Christian Charrière-Bournazel, que celui-ci ?
Oui, j'ai écrit également chez les éditions Marie-Romaine un livre sur Georges Bernanos que j'ai intitulé « Georges Bernanos, pèlerin infatigable de l'espérance ». J'ai consacré mon mémoire de maîtrise de lettres classiques à ce personnage inouï de Bernanos. J'avais intitulé « L'adolescent dans le romanesque de Bernanos ». Et puis j'ai eu l'occasion de faire des conférences sur Bernanos, et j'ai fait, sous la direction de l'éditrice Madame Marie-Romaine Panier, j'ai fait le livre qui en fait reprend tout ce que j'avais écrit et pensé sur cet auteur admirable, et elle l'a édité, et c'est un livre auquel personnellement j'ai attaché beaucoup de soins et d'importance. Et puis j'ai également écrit un autre livre qui n'a rien à voir, qui est un livre d'imagination. Je suis très hostile comme avocat à la prison, et surtout à la manière dont elle est gérée et vécue. Et donc, j'ai écrit un journal qui est intitulé « Perpétuité ». C'est le journal d'un condamné. Alors, il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, il est sorti de ma tête, mais qui, jour après jour, raconte ce qu'il vit. Sans oublier, évidemment, la gravité de son crime, mais la perpétuité à laquelle il est voué, il préfère lui substituer la mort et il se suicide. Voilà ce troisième livre. Puis j'ai fait des livres qui étaient dans un autre domaine, sur le droit ou la liberté d'expression, qui est la liberté d'expression chez Ballant, et puis chez Stock, la rage sécuritaire à l'époque où le président de la République voulait durcir encore le sort des détenus. Mais tout ça, c'est un autre sujet. Et si vous voulez, quand on a le goût de la littérature pour son artifice ou ses artifices, mais pour ce qu'elle permet d'exprimer, d'explorer en soi-même et d'exprimer pour les autres, on doit s'intéresser à la fois au rêve et à la vie. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, sachant que l'avocat que je suis, puisque vous l'avez dit, médite toujours la phrase de Sénèque sur l'éloquence. L'éloquence, c'est cultiver le beau pour exprimer le vrai. Voilà ce qui est ma devise.
C'est une très belle phrase. On va terminer. On va terminer cette phrase là-dessus. Alors, on voulait juste informer les auditrices et les auditeurs qu'on va revenir vers vous. Alors cette fois vers Maître Charrière-Bournazel. On va revenir.
Charrière-Bournazel.
Voilà, désolé, Maître Charrière-Bournazel. On va revenir vers vous dans quelques semaines, mais plus toujours par rapport au mot pour interroger l'avocat sur comment un avocat fait. Pour concevoir une plaidoirie, parce que on est sur ce que vous venez de dire, sur le texte que vous venez de citer, et on va vous recontacter effectivement pour reparler de ça. Et je pense que le livre dont vous nous avez parlé à l'instant sur Perpétuité, je pense que c'est un roman qu'on aimerait bien chroniquer aussi, parce que je pense que le thème des prisons, c'est pas forcément un thème aujourd'hui qu'on entend beaucoup dans le cadre des élections à la présidentielle, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Sur le fait que des personnes soient enfermées, sur comment on travaille à leur réintégration sociale. J'avais juste dernièrement cette réflexion à une personne qui me disait, j'ai eu un dossier d'une personne qui sort de prison, mais j'ai dit oui, mais si elle a payé sa dette, j'ai dit je vois pas pourquoi vous ne le recruteriez pas pour lui faire payer la dette une deuxième fois, quoi. Je pense qu'il y a un vrai sujet et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire à nouveau là-dessus.
Je pense que c'est un angle mort de la politique aujourd'hui, c'est la situation carcérale.
Bien sûr, et je suis à votre disposition pour en parler, car par moment, je pense qu'on regardera la prison telle qu'on la conçoit et qu'on la fait vivre aujourd'hui, au 21e siècle, on la verra dans quelques années ou quelques décennies, avec le même œil que celui qu'on jette aujourd'hui sur le supplice de la route, l'ancien régime.
Tout à fait. Je pense que oui, tout à fait. C'est vrai que quand on lit notamment le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo où les mises à mort avaient lieu sur la place publique, pour nous qui sommes pas très loin de Toulouse, la place Saint-Georges aujourd'hui à Toulouse, qui est une place où viennent tous les étudiants, c'est la place où on mettait à mort les gens, et c'est là où d'ailleurs où Jean Calas a été mis à mort. Et quand j'en parle moi de temps en temps, quand je vais sur Toulouse, ma fille y habitait, elle me dit ah bon, mais je le savais pas. Et bien, je lui dis voilà, j'ai dit maintenant tu sauras que c'est sur cette place, et il faut pas oublier tout ça. C'est pour ça que je suis d'accord. On va revenir vers vous, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire encore, Maître Charrière-Bournazel.
Je m'en réjouis et je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Et
merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Vous vouliez dire un mot, Diego Rabal.
Je voulais simplement saluer Maître Christian Charrière-Bournazel d'être parmi nous, et puis lui dire le plaisir que j'aurai à discuter avec lui sur l'univers carcéral lorsque nous le recevrons la prochaine fois.
Et bien alors on va faire ça.
Bon, voilà. Merci infiniment.
Merci beaucoup, merci. Christian Charrière-Bournazel. Merci et à très très bientôt. Au revoir.
Au revoir, messieurs. Enfin, merci encore.
Merci, au revoir.
J'ai bien senti que ce sujet vous
intéressait. Voilà, Philippe Subercane, c'est la fin de cette émission.
J'ai bien senti que ça vous intéressait fortement.
Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Diego Rabal.
Alors, ce sera une nouvelle émission avec un invité surprise, et ce sera une émission sur les romans policiers.
Ah, mais voilà, c'est votre, je crois que c'est votre...
C'est mon choix.
Ah ouais, c'est votre choix, ça, ouais. C'est votre spécialité, même. Ok, on se dit à la semaine prochaine, alors.
Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
présence dans la Haute-Ariège 92.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Repli sur soi, le pape invite à l'accueil, à la réciprocité et au service. Être une personne, c'est se